Quel genre de critique êtes-vous ? Je vous pose la question parce que c'est très en vue d'être critique, d'avoir un avis sur tout, un point de vue, pire, un jugement de goût. C'est soit j'aime pas, vous savez, en une phrase, un post, un tweet si possible, parce que l'heure est à l'urgence et à l'efficacité. Surtout ne pas s'interroger. Au mieux, on invoque les goûts et les couleurs, la subjectivité, la personnalité. Au pire, on décide comme ça qu'on a toute légitimité à juger, qu'on fait autorité. Dans tous les cas, ça se discute pas. C'est ainsi, c'est comme ça, ça c'est bien, ça, ça l'est pas, ça c'est pas mal, mais ça, ça vaut pas le coup, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est beau, mais pas ça, par rapport à ça. Le problème du jugement de goût, comme le démontrait si bien Pierre Bourdieu dans La Distinction il y a 40 ans déjà, c'est qu'il repose, en fait, sur une domination. Le goût, explique-t-il, c'est un dégoût. C'est le dégoût du goût des autres. C'est l'affirmation violente que je goûte mieux que toi. Et cette affirmation, elle ne vient pas de nulle part, de notre avis, de notre personnalité, de notre subjectivité. Elle dépend d'une éducation, d'une formation, d'un milieu social. En fin de compte, on n'est pas si original. Alors c'est très intéressant le jugement de goût, hein. Ça dit beaucoup de choses sur la personne qui juge. La question c'est de savoir si c'est le critique qui vous intéresse ou si ce qui est en train de critiquer, l'œuvre en l'occurrence. Et vous, quel genre de critique êtes-vous ?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il la critique facile ? Lui qui manie le verbe avec autant d'aisance que de malice et qui ne résiste jamais à la jouissance d'un bon mot. Il est comédien à l'affiche demain du film de Rémy Besançon Le Mystère Henri Pic, adapté du roman de David Fuenquinos. Il y joue le rôle d'un critique de livre déboussolé, bien décidé à démasquer une imposture littéraire. Bonjour Fabrice Lucchini.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Tout d'abord, quel genre de critique est-ce que vous êtes, vous, dans la vie ?
J'aurais beaucoup aimé me libérer de ce penchant à ne pas être dans l'adhésion et dans la réconciliation. Malheureusement, je me trouve très critique, moi.
Vous êtes du genre à hiérarchiser, à juger, non ?
Oui, mais je travaille beaucoup pour essayer de me libérer de toutes ces composantes. Mais en même temps, je pense qu'une affirmation, c'est par l'hostilité et c'est par une forme d'opposition qu'un caractère quand même se définit. Alors, on dirait des intellos qui se rencontrent. En un mot, je pense que j'aurais bien aimé ne pas avoir ce trait de caractère. J'aurais bien aimé ne pas être critique. Mais en même temps, bon, c'est le fameux truc du point sur le nez de Roland Barthes. Quand Barthes dit quelque chose se pointe, un épisode de langage, quand Albertine dans Proust dit « je me suis fait casser le pot ». Et malheureusement, le narrateur est terrorisé par cette phrase. Donc il est plus amoureux de Albertine, d'Albert, peu importe. Bon, mais évidemment, on ne peut pas penser à un Roland Barthes sans la critique. Oui. Mais en même temps, ce qui est bête, c'est quand on n'est pas Roland Barthes et qu'on est critique. Et donc, vous soulevez un énorme problème,
vraiment,
c'est que chacun... Vous savez, tu connais la phrase de Guitry, merveilleuse. « En voyant le visage du critique qui nous a démoli dans notre pièce, nous sommes vengés le lendemain. » Bon, mais en même temps, allez-y, parce que c'est un grand problème.
Mais
vous
oui.
parlez de moi en tant que position critique par rapport à ce rôle, et puis de la critique théâtrale et cinématographique.
Et littéraire, vous avez conscience qu'en imposant votre jugement de goût, comme vous le faites souvent, et notamment à ce micro, chaque fois que vous venez me voir, vous excluez, vous violentez, vous faites preuve d'une certaine domination sociale. Social, peut-être.
Ah oui, ah là, c'est du Bourdieu. C'est du Bourdieu ahurissant.
Quel non, cauchemar.
Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait, tout se vaudrait, en quelque sorte, tout serait possible.
Libre
il
n'y
a pas de hiérarchie.
Libre
en gros, Rimbaud, c'est pareil qu'un rappeur, c'est, tout est pareil.
Mais libre à vous de choisir une préférence entre le bœuf écorché de Rembrandt et un Arlequin de Picasso. Mmh. On peut aussi décider qu'ils ne sont pas sur le même plan, qu'ils ne sont pas comparables,
mais
donc
ça,
hiérarchisables.
C'est une chose nouvelle en vous, ce besoin absolu d'indifférencier le réel.
Ce sont des lectures, Fabrice, des
Donc
lectures.
C'est un différentiel réel, votre trip.
Vous les lisez, les critiques, vous ?
Oui, alors ça, c'est un sujet très particulier. Les gens qui vous disent que ça leur fait rien, c'est pas vrai. Les gens qui les lisent... c'est compliqué, cette histoire. J'ai connu Marc Abru, qui était un très grand critique du Figaro, qui, à la suite de la lecture de sa critique, tu avançais dans ton métier, car il donnait des arguments pour dire qu'il y a des progrès à cet endroit, par contre, que c'était réussi à l'autre. C'était argumenté. Après, il y a une critique qui est arrivée beaucoup plus d'humeur, intempestive. Ce qui est curieux pour moi, c'est comment on peut être critique et être écrivain, par
oui.
exemple. Ça me semble très étrange.
Moi aussi.
Enfin, on est dans une époque, regardez, on est dans une époque où les gens font ça, il n'y a rien à dire. Je pense que la position, c'est qu'il ne faut pas avoir d'opinion par rapport à la critique. Quand on lit Baudelaire qui parle de Delacroix, on se dit, ah oui, être critique, c'est être génial. Quand on écoute Serge Danet parler du cinéma, on se dit, ah, quelle merveille d'être critique. Tout ça, c'est merveilleux. Alors maintenant, évidemment, il y a une critique plus intempestive, d'humeur. J'ai pas d'opinion. En tout cas, c'est... Il est utile de ne pas les lire.
Dans le mystère Henri Pic, Fabrice Luchini, vous incarnez un fameux critique littéraire extrêmement respecté et qui, du jour au lendemain, perd son travail, sa femme, sa vie bien rangée. Ce personnage, à votre avis, qu'est-ce qu'il dit du petit milieu littéraire français ?
Bon, alors donc, c'est une sorte de Pivot et de Pollack et de Jean Dernalier.
Et de Luchini.
Ah bon, bah c'est un peu comme ça que j'ai travaillé le personnage. Il est pris, ce qu'il fallait que je résolve, c'est le problème du besoin de vérité, tu sais. Barthes disait toujours, je n'ai aucune éthique de la sincérité. Il s'en foutait de mentir. Moi, je suis sorti souvent avec lui voir des pièces de théâtre et il me demandait de partir à l'entracte parce qu'il avait tout compris. Je me rappelle particulièrement d'un spectacle de Molière d'Antoine Vitesse. Et il m'avait dit, peut-on partir ? Vous faites un choix, soit nous dînons tous les deux et on part à l'entracte, ou soit on va jusqu'au bout et on ne dîne pas. Donc moi, j'ai préféré quand même dîner avec lui. Surtout que j'avais vu la pièce merveilleuse de Vitesse, de Molière. Mais mon personnage est donc traversé par une espèce d'obsession de vérité, pathétiquement adolescente. Il ne croit pas que ce livre, Henri Pic, est écrit par un pizzaiolo breton. Il est évident qu'il y a quand même eu quelques critiques dans cette merveilleuse France que nous avons traversée, parce que le film marche bien, et qui me disent, mais alors ? Mais même Jérôme Garcin m'a dit ça. Il me dit, c'est très 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 violent socialement qu'il n'accepte pas qu'un pizzaiolo breton. On était dans votre avis
différenciation du début. C'est très violent.
Hein, oui. Et donc, mon personnage est traversé par le besoin de vérité. C'est très étrange. Il ne croit pas que ce coup éditorialiste, coup d'éditeur, que de dire que c'est un pizzaiolo breton, parce qu'il le dit lui-même, il dit, le roman est remarquable, je l'ai dit, mais le roman du roman, cette capacité que le roman est fait par un pauvre breton très au fond de la Bretagne, à Quimper, c'est-à-dire dans le Finistère, au bout de la terre, que ce gars-là crée un chef-d'œuvre qui est du niveau d'un Flaubert ou d'un Henry James, eh bien moi je vais découvrir que c'est pas vrai, et là une errance dans la Bretagne, avec ce ton et ce talent qu'a notre ami Besançon de créer de l'humour avec ma collègue de jeu qui s'appelle Camille Cottin.
Ce qui m'étonne quand vous me dites que vous êtes obsédé par la vérité, vous, c'est que je pensais que vous étiez plutôt du côté du mystère, moi, Fabrice Luchini. Le mystère, on en a beaucoup moins en ce moment, aujourd'hui, vous trouvez pas ?
Je sais pas de quel côté je suis, mon pauvre Augustin. Je suis dans un état de grand flottement.
Ah bon ?
Même après 40 ans d'analyse,
mais qu'est-ce
ça va
passe
pas beaucoup mieux. C'est pas une honte d'être dans l'état de flottement.
Non, non, moi-même ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour.
Oui, mais enfin avec votre activité surhystérique, parce que c'est quand même un concept d'évitement. D'ailleurs, je l'ai dit à Laurent
Ruquier.
C'est
la cantine qui se moque du réfectoire.
Tout est possible. Non, j'ai pas d'opinion. Elle est médiocre. Cette époque est surtout pesante. Elle est surtout insistante. Voilà. Quand Camus dit que la bêtise insiste, c'est une période insistante. C'est une période où les gens n'ont pas mesuré du drame civilisationnel de cette invention qui s'appelle le portable. On ne mesure pas ce qui va se passer. La passante de Brassens, la passante de Baudelaire, la promenade dans une rue qui était encore possible il y a quelques années, ne sera plus possible. Il n'est plus pour une chose simple, c'est qu'il n'y a plus de regard, puisque tout le monde est branché, et moi-même, je suis pris par cette addiction, tout le monde est branché sur un pauvre truc pour se sentir en relation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'expérience de solitude. Et ça, c'est fascinant, parce que ces gens qui veulent absolument se perdre et ne pu être présent à ce miracle de l'instant. Ils sortent, il y a le portable, ils ouvrent la voiture, l'enfant est à droite, même on lâche la main de l'enfant. Hier, j'ai vu une femme qui lâchait la main de l'enfant. Et je me suis occupé de ce qui ne me regardait pas, et elle était adorable, c'était une intermittente adorable. Elle m'a dit, je vous aime beaucoup, mais oui, c'est vrai que je l'ai lâché. Je dis, mais c'est pas bien, j'ai vu votre enfant, elle était en détresse. Puis je me suis dit, quel con, de quoi je me mêle, voilà, c'est comme ça.
Moi, je lâche ma main pour lancer le boomerang.
On dirait quand même un petit peu du Duras.
Oui, un petit peu dans l'économie. Un petit peu du Duras. Enfin, Duras, elle aurait plutôt écrit « C'est le père qui écrit. C'est le père qui a décidé d'écrire à la fille. Écrire, c'est ne pas parler. Écrire, c'est se taire. Écrire, c'est hurler sans bruit. C'est le père qui écrit à la fille. Il espérait beaucoup dans la première étoile, le père. Il n'avait jamais eu de récompense. C'est pour ça qu'il espérait dans la fille, le père. D'habitude, ça fait rire, mais là, je vois que c'est peut-être pas le moment. »
Fabrice Luchini dans le mystère Henri Pic de Rémy Besançon aux côtés de Camille Cottin et qui singe, qui parodie, qui rejoue Marguerite Duras. Il est arrivé que la langue d'un auteur vous obsède au point de vous hanter, Fabrice, au point de prendre possession de vous ?
Ah bah c'est mon métier, donc si t'es pas traversé par Peggy, si t'es pas traversé par Guitry, si t'es pas colonisé par eux, malheureusement, et heureusement, c'est ton métier.
Cette scène, vous l'avez improvisée ?
Oui, c'est ça le talent de Besançon, c'est que il m'avait donné quelques pistes. Je me souviens, Fanny Ardant, j'avais rencontré Fanny Ardant dans un restaurant qui s'appelait Natacha, rue Campagne Première, et elle m'avait envoyé une carte postale à la suite d'un de mes spectacles qui devait être sur Céline ou La Fontaine, je me souviens plus. Elle m'avait écrit avec une structure, une mélodie durassienne, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit « C'est Fanny ». Hier, j'étais chez Natacha, une femme blonde très belle est venue me voir, qui m'a parlé de Rilke. Vous l'aimez, lui? Rilke. J'ai adoré cette phrase et je l'ai entendue en lisant la phrase. C'est un grand bon, ça fait énormément rire, hein, cette improvisation
surtout,
sur Duras.
Surtout, on ne sait pas si vous l'aimez ou si vous la détestez, Marguerite Duras.
Je la connais mal. Ce que je sais, c'est que j'avais acheté un livre qui s'appelait « La vie matérielle » qui commençait par... Elle avait pris un livre dans la poubelle, c'était La vie de Georges Pompidou. J'ai adoré ce début de livre. J'aime énormément chez Duras parce qu'elle va au point où elle flirte avec le ridicule, avec l'incroyable « Je me regarde écrire ». Mais je connais pas bien, évidemment les premiers sont des grands livres, mais ce que je voulais juste vous dire sur Duras, c'est que je la cite dans mon spectacle tous les soirs. J'aime ses phrases quand elle dit avec une gravité absolument immense, je suis mitterrandienne. Et là, il y a un temps immense. On se dit, elle a dit quelque chose de définitif. C'est Frédéric Nietzsche dans les derniers moments à Sils Maria. Et elle dit, je suis mitterrandienne. Et puis elle dit des phrases comme, les femmes jettent très peu. Je jette beaucoup.
Qu'est-ce qui fait un grand auteur pour vous, Fabrice Luchini?
Ah, qu'est-ce qui fait un grand auteur? L'agencement qui n'a jamais été fait avant lui, la structure qui produit un contact organique, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le nerf. C'est terrible à dire, mais la description de Céline est quand même intéressante. C'est le gars qui va au nerf et qui t'emmène à une émotion qui dépasse même la littérature, qui dépasse la langue et qui est organique. Par exemple, pourquoi Molière est un immense auteur? Parce que, je vais vous dire en deux mots, il y a un personnage qui, à un moment dans Les Femmes Savantes, flippe complètement parce que on n'a plus le droit de parler normalement dans cette maison. Il hurle, il en peut plus, et il dit cette phrase étonnante, tout ce qu'il dit sont des billes veusées, et là, il y a un moment de génie, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Le grand auteur, c'est celui qui te révèle un réel que t'avais jamais vu. C'est ce que, comme dit Nietzsche, le grand nommeur.
Vous les trouvez dans la littérature contemporaine?
Oui, je trouve, par exemple, dans le Lançon. Dans le Lambeau, je trouve évidemment chez Emmanuel Carrère, tous ces écrivains sont des écrivains remarquables, mais ils pensent pas qu'ils sont d'une fulgurance et d'une invention absolue comme ce qu'a représenté ne serait-ce que Le Voyage au bout de la nuit en 1932.
À un moment donné dans le film, une éditrice explique à votre personnage que le grand drame de la France, c'est qu'il y a plus d'aspirants écrivains que de lecteurs. Comment vous l'expliquez ça?
Parce qu'il y a un fantasme qui a dû être encouragé par Jack Lang. Les gens doivent se dire qu'ils sont tous des Rimbaud assassinés. Tu sais, il y avait une grande thèse, toi t'as pas connu en mai 68, mais moi j'ai été quand même militant trotskiste, pas longtemps, une vingtaine de jours, mais je vendais Rouge et je vendais Lutte ouvrière. Il y avait déjà une scission, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait dans le projet de la gauche une envie que chacun soit un pur créateur. Il y a même un texte, je crois que c'est de Saint-Exupéry, où il dit qu'il voit des hommes partir au travail le matin et il dit ce sont tous des Mozart assassinés. Et on y a cru à ça.
Mais vous, par exemple, quand vous avez écrit votre livre, oui, vous sentiez Mozart assassiné?
Non. D'abord, j'ai été aidé. Et puis, c'était essayer de communiquer mon admiration.
Diriez-vous que l'écrivain est plus considéré que le comédien, Fabrice Luchini?
Oui, complètement, parce que d'abord, le comédien est l'incarnation d'une pathologie beaucoup plus grave que l'écrivain. Le comédien se disperse dans les couleurs des autres, et l'écrivain travaille de son identité profonde, disant que l'écrivain est aristocratique, et le comédien est l'incarnation ou du diplomate quand c'est très haut de gamme. Ça, c'est une thèse de Nietzsche. Il pense que les comédiens sont la dernière race la plus médiocre qui existe. Il met vaguement les diplomates au-dessus.
Pour tous ceux qui, comme vous, souhaiteraient devenir comédien, Fabrice, vous avez eu la générosité de penser à une archive qui pourrait leur être fort utile. Il s'agit des conseils de Sacha Guitry à un comédien, lu par Jean-Claude Brialy, et c'est absolument réjouissant.
Tu dois jouer la comédie pendant que tu es en scène sans t'interrompre un seul instant. Tu représentes un personnage, tu dois être derrière lui comme derrière un masque. Il doit toujours passer avant toi. Lorsque tu entres en scène depuis un quart de seconde, il doit y être déjà. N'oublie jamais qu'il est devant toi et que d'un geste maladroit, tu peux le faire tomber. Pour le malheur du théâtre, les comédiens et l'auteur n'ont pas exactement le même intérêt. L'auteur n'a qu'un seul objectif, la réussite de sa pièce. Et chaque comédien n'a qu'un seul objectif, sa propre réussite. Tu ne dois pas dire, c'est ennuyeux de jouer longtemps la même pièce. Réfléchis, puisque chaque soir, tu joues devant un public nouveau. C'est un peu comme si tu jouais chaque soir une pièce nouvelle devant le même public. Le naturel est la qualité la plus précieuse du comédien moderne. C'était pour moi. Parfois, c'est un don, mais malheureusement, quand un comédien possède ce don, il n'en possède pas d'autre. Et le comédien qui n'est que naturel n'est pas un très bon comédien. Le naturel est un diapason, c'est le là des comédiens. Tu dois savoir ton métier, mais ce métier, crois-moi, on ne l'enseigne nulle part et cependant tu dois l'apprendre. Et comment ? Sur scène, en jouant la comédie, il n'y a pas de professeur, il n'y a qu'un maître, le public. C'est lui qui te dira si tu as du talent, c'est lui qui te dira si tu es drôle ou si tu es émouvant.
Les conseils de Sacha Guitry à un comédien lu par Jean-Claude Brialy. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention dans ce que dit Guitry, Fabrice Lucchini?
Deux choses rapides. C'est de Guitry qu'on doit la merveilleuse définition des cours de théâtre. C'était de Guitry, on a demandé qu'est-ce que vous pensez des cours de théâtre. Il a dit c'est la traite des planches. Alors moi, ce qui n'a pas été mon cas, parce que Cochet a été fondamental dans ma vie, c'est un des plus grands professeurs de théâtre. Et Jouvet est mon maître et m'obsède jour et nuit. Guitry, dans Le Comédien, à un moment, regarde un acteur dans sa loge qui lui demande « Comment vous m'avez trouvé ?» Il lui dit « Oh, vous croyez être un bon acteur, alors vous croyez être un acteur drôle, alors que vous n'êtes qu'un drôle d'acteur. Ah. » Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que quand je parle, vous faites des grimaces dans l'espoir que les gens vous regardent. Et vous dites que vous faites rire. « Ah oui, je fais rire !» Oui, mais si on vous emmenait les 3-4 personnes que vous faites rire dans votre loge, vous seriez... atterré, oui, allez, partez, vous pourriez être à la Comédie Française.
Il y avait l'air charmant.
Guitry est une merveille, c'est lui qui a dit cette phrase, comme si j'aurais pu être malheureux si j'avais voulu.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce qu'il dit sur le naturel qui est à la fois...
Ça, c'est passionnant.
Ah ouais, passionnant.
C'est passionnant parce que...
Qui est à la fois la qualité la plus précieuse du comédien, mais qui ne suffit pas pour autant à faire...
Non, bah parce que ça veut dire que si tu n'es que naturel, il n'y a pas de lyrisme, il n'y a pas de chant, il n'y a pas... Faut se méfier, faut pas non plus faire de l'emphase, faut pas faire de la voix. Ce qui est merveilleux dans les acteurs, pourquoi on aime Jouvet, pourquoi on aime Rému, parce qu'on aime la musique, leur musique. Il n'est pas naturaliste. Il y a en ce moment une chape de naturalisme. Moi, je ne la juge pas, je ne la conteste pas. Elle existe.
Pas.
Non, mais elle est là. C'est déjà bien quelqu'un qui est juste, hein. C'est pas rien. On est heureux de voir un acteur juste parce qu'un acteur, par exemple, qui fait trop de théâtre, qui vient au cinéma en appuyant sur la, par une diction, outrancière, on est malheureux. Donc, le naturel, ce n'est pas rien. Il a évidemment raison, Guitry. Mais le naturel ne doit pas empêcher que l'acteur doit restituer la musique immense de l'auteur dont il a la responsabilité. D'où l'immense intérêt de faire du théâtre tous les soirs. Car l'acteur peut être au théâtre dans cet exercice si complexe qui est de servir les musiques et après d'être au cinéma dans une vérité plus organique et plus concrète.
Au risque que Fabrice Lucchini ne disparaisse jamais.
Ouais, ça c'est un vieux truc de critique. Moi j'ai fait Bruno Dumont, Malout, hein, qui a été à Cannes.
Ouais.
Malout, on me reconnaissait pas, tout ça.
Si, alors, si, je vous promets, on vous reconnaissait.
Oui, mais pas du tout. Ouais. Ça n'existe pas. Alors ce problème de la vacance.
Mais ça n'est pas un problème,
non,
c'est une question.
Si, ouais. Si, c'est une grande question. Les gens disent, pour certains, ils faisaient du Jouvet, ils faisaient du Rému. C'est très complexe cette affaire.
Et surtout à vous entendre, c'est une qualité.
Non, c'est un défaut. Si tu laisses pas la lecture possible de l'identité dont t'as la responsabilité. Évidemment, quand les gens disent « Ah, il fait du Lucchini », d'abord, faudrait savoir qu'est-ce que tu veux faire d'autre, puisque t'as un corps, t'as une voix, t'as un rythme. La seule chose, c'est que t'as un déplacement. Moi, je suis pas en train de vous faire l'avocat, de dire « Non, je ne fais pas du Lucchini ». On ne fait que ce qu'on fait. On aime Bacri, les gens ont tendance à dire « Il fait du Bacri ». Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? La seule chose, c'est quand il joue les femmes savantes, il se déplace, Bacri. La seule chose qu'un acteur est fréquentable, c'est que s'il se déplace, quand il a Rimbaud ou Hugo dans les mains, s'il fait du Lucchini, c'est pas bon. Donc, acteur, on n'est que ce qu'on est, mais on doit se déplacer.
Moi, j'ai l'impression que pour vous, faire du cinéma, Fabrice Luchini, c'est aussi une façon de rencontrer les autres, de travailler en équipe, de sortir de la solitude dans laquelle vous êtes
de
sur
scène. Ouais. Le cinéma, c'est comme un truc immoral, c'est comme des vacances gigantesques.
Qu'est-ce que ça représente, la solitude, pour vous? Vous l'êtes seul?
Oh, alors là, tu vas très loin sur ce sort de Jacques Chancel. Dieu dans tout ça, demandait-il à Borges.
Question qu'il n'a posée qu'une fois.
Avec Borges en disant, la vie, ça vaut le coup. Le mec était complètement désespéré, aveugle, et qui disait que la vie était une tragédie, comme Cioran, et lui finissait pour se dire quand même la bonne humeur. Borges, la vie, ça vaut le coup. J'ai adoré cette phrase-là. Le cinéma, c'est des vacances. C'est merveilleux. Je me retrouve en Bretagne. Le mystère Henri pique. Il n'y a pas l'obsession de dire la structure rythmique de Rimbaud, il n'y a pas le problème de Peggy, il n'y a pas le problème de Shakespeare. Et c'est un grand bonheur.
Mais la solitude, Fabrice, c'était ça ma question.
La solitude, je pense que ça veut dire moi la solitude.
Dans quelle mesure est-ce que vous avez besoin des autres aujourd'hui?
Le besoin des autres. Dans un premier temps, ton narcissisme impérialiste exige que l'autre te renvoie une belle image. Puis quand tu vieillis, quand tu déprimes et quand tu as fait une quarantaine d'années d'analyse, tu commences à comprendre que l'autre doit pas être instrumentalisé dans une unique fonction de renvoi. Ils vont se croire à 6h du matin sur France Culture. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup plus de présence à l'autre depuis que je me suis débarrassé. Pas totalement, vous imaginez, mais que je me suis quand même pas mal débarrassé de mon obsession sur mon ego. Il est énorme encore. J'ai encore du chemin avant d'être zazen.
Vous aimez toujours être regardé, vous aimez toujours séduire.
Ah oui, alors c'est un moteur qui ne sera jamais enlevé, même par les médicaments et même par le... C'est une chose qui est un peu la fatalité d'un comédien, c'est que il veut être aimé, mais il peut en faire quelque chose de cette affaire-là.
Mais là, par exemple, si vous vouliez essayer de me séduire, vous feriez quoi?
Bon, Augustin Trapenard, j'ai aucune envie de te séduire, mais j'ai pas envie de te mépriser non plus. On disait de Macron, par exemple, qu'il voulait séduire même une plante verte. Mais c'est qu'il n'a que 40 ans. À 66 ans, tu commences à prendre une distance par rapport à ton narcissisme.
Bon, on va continuer à séduire quand même un petit
peu. Oui, très, très, très invite. Tous les deux, très, très, très affirmation au mot.
Bien sûr. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit James Brown. Je sais vous prendre, moi.
Ah bah oui, enfin, bien. Oh, dis donc.
Please, please, please. 1956.
Ah oui, t'as choisi des drôles de trucs. Ah bah, c'est le plus triste.
Vous êtes sur France Inter. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Please, please. Please, please.
Take my hand.
Morand sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il change pas, hein. Il est toujours moins rat de bibliothèque que chat de salon, câlin, ronron, saucisson avec ses yeux de matou gourmet qui vous toise de haut en bas avant de savoir si vous êtes digne ou non de lui gratter le ventre ou l'oreille, d'un aspect d'ailleurs fort soyeux. Il a un petit pull gris bleu et une chemise bleue de la couleur de ses yeux ce matin. Le comédien Fabrice Luchini, invité de Boomerang, pour son rôle dans le mystère Henri Pic de Rémy Besançon, où vous jouez, on l'a compris, un critique littéraire obsessionnel qui va se lancer à corps perdu dans une enquête qui le mènera sur les traces d'un pizzaïolo breton. Un film cocasse, éminemment littéraire, et je vous ai un jour entendu dire, Fabrice, que la littérature et le cinéma étaient étroitement liés. En quoi l'écrivain, par exemple, est-il toujours un cinéaste, pour vous ?
Le grand écrivain donne à voir. Enfin là, j'ai une voix très sérieuse. Le grand génie, par exemple, concret, par exemple, du Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est que c'est le plus grand cinéaste. Il donne à voir. Quand il parlait de la banlieue, quand tout d'un coup il dit la tante à bébé rentrait des commissions, elle avait déjà pris le petit verre. Faut bien dire également aussi qu'elle reniflait un peu les terres. Elle donnait des consultations médicales dans le voisinage et même assez loin, jusque sur Beson.
Qu'est-ce qui est cinématographique là-dedans?
Ce qui est cinématographique, c'est qu'on voit la grand-mère arriver, il y a un plan large, et puis à un moment, on va faire un gros plan. Le gros plan, c'est au moment où il dit, il m'aurait intéressé de savoir si elle pensait quelquefois à quelque chose, la tante. Ah oui, d'abord, il dit, il lui restait plus que deux des dents par devant, mais elle manquait jamais de les brosser. Crac, gros plan. Quand on est comme moi, qu'on a servi chez un médecin, on connaît l'hygiène. Et elle donnait des consultations médicales. Et là, on réélargit.
Ça veut dire que le cinéma serait inscrit dans la langue, en fait?
Le cinéma ne peut pas divorcer essentiellement du génie des dialogues. Pensons à Janson, pensons à Prévert. L'image ne peut pas tout, comme dit Roland Barthes, et le cinéma est un art évidemment inférieur à la littérature.
La langue, la littérature, je sais que c'est un sujet auquel vous êtes très sensible. Quand vous ouvrez grand les oreilles et que vous entendez comment on parle dans la rue, dans les médias, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous entendez au juste aujourd'hui, Fabrice Luchini ?
Trois concepts bouleversants qui peuvent me foutre un cafard énorme. C'est juste génial d'être avec Trapenard. Ça, oui. C'est une fainéantise de l'âme monstrueuse.
J'ai cru un instant que vous me faisiez un compliment.
Oui, non, mais c'est juste génial d'être avec Augustin Trapenard. Un problème. Bonjour, monsieur, je voudrais une limonade. Pas de souci. Ben oui, ça, on imagine bien que tu vas pas plonger dans la métaphysique de Schopenhauer pour nous envoyer un diabolomande. Le pas de souci est devenu il est devenu mais effrayant. Et puis, mais je pense que c'est le juste. Même les hommes politiques font des choses du truc. Non, mais c'est juste le chaos.
Comment c'est pour ça que vous voulez rentrer à l'Académie française?
Mais Fabrice. Non, je vais pas du tout y aller. Vais pas du tout me présenter. Pas du tout.
Entre nous, ça compte la reconnaissance institutionnelle.
Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, que le prochain est dur à digérer. Voilà. Dis-moi.
La reconnaissance
institutionnelle. Ah, la reconnaissance, énorme, énorme. Faut jamais cracher sur la vanité. Le mec qui te dit, je n'ai pas besoin de prix, je n'ai pas besoin du regard. Non, c'est débile, on a besoin de ça, surtout les flipper.
Et on est dans une époque où la légitimité des institutions est plus que jamais remise en question. Ça doit vous réjouir, ça.
Ah oui, cette idée de la révolution, oui. En même temps, ça remplace souvent par une autre doxa. Bon, ça m'emballe pas non plus. Les élites sont pas brillantes. Hein. Il m'a demandé ça, de la housse. Il me dit, vous vous sentez une élite? J'ai dit, mais que vous me racontez de la housse? Je suis pas une élite, je suis rien du tout. Le seul truc, c'est que je gagne bien ma vie et je fais un métier qui me passionne. Donc, je ferme ma gueule parce que je n'ai pas de légitimité. À partir du moment où t'as le miracle de ta vie d'avoir trouvé un métier alors que t'as quitté l'école à 14 ans, à partir du moment où ta vie est consacrée à Rimbaud, à Hugo, à Nietzsche, par moment où tu gagnes très bien ta vie, j'en ai honte, mais c'est comme ça, tu fermes ta gueule. Moins.
Alors exerçons-le, ce métier, Hugo.
Tiens, parlons d'Hugo.
Non, parlons pas d'Hugo, dites-moi d'Hugo.
Tu es autoritaire, mais je vais quand même le
faire.
Très
autoritaire.
Tu es une personne très autoritaire, très 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 phallique. Alors donc, non mais on le sent, mais
on
écoute,
la sent,
tu sais, Rimbaud disait toujours que Hugo était un voyant mais un cabochard. Et c'est ça qui est fascinant chez Hugo. C'est un très grand écrivain. Et en même temps, il est le grand écrivain à truc. Mais par exemple, dans mon spectacle, là, les écrivains parlent d'argent. À un moment, je parle de la pauvreté. Et Hugo rentre en disant, un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche en bas de la montée et rêve, attendant solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains vers l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criais, venez vous réchauffer un peu, comment vous nommez-vous? Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main, Entré brave homme et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid. Il me parlait et je lui répondais, pensif et sans l'entendre. « Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre devant la cheminée. » Il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé de vert et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de mille trous par une lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon, désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je pensais que cet homme était plein de prières. Et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure, où je voyais des constellations. Ce qui est magnifique, c'est qu'il le mythifie totalement, le misérable. C'est magnifique.
Ce qui est magnifique, c'est surtout de vous entendre dire, Hugo, parce qu'il n'y a pas de notes devant vous, Fabrice Luchini. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Le Mystère Henri Pic de Rémy Besançon, avec Camille Cotin notamment, sort mercredi. C'est une fantaisie assez délicieuse, parfois cocasse tout de suite. Les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Il grêle, mes pupilles pelles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde.
Présentement, Aloïse Sauvage sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.